rentrée pour le logement, comment ça marche? Celle aussi des étudiants, rentrée synonyme de recherche dans le logement. Comment préparer son dossier? Cité universitaire, colocation, chambre chez l'habitant, avez-vous pensé à toutes les options? Et puis comment faire si vous n'avez pas de garant? En septembre, les juristes de la DIL se mobilisent chaque semaine pour vous proposer une chronique spéciale étudiant. Bonjour à tous. En ce début d'année scolaire, vous faites partie de ces étudiants en quête d'un logement. Mais avez-vous pensé à tout? Cité universitaire, foyer, chambre chez l'habitant, colocation ou encore parc locatif privé, les modes d'hébergement destinés aux étudiants sont nombreux et plus ou moins avantageux. C'est le sujet du jour dans le logement, comment ça marche? Pour faire le tour de la question, avec moi Audrey Fitoussi, juriste spécialisée en droit immobilier à la DIL des Bouches-du-Rhône. Bonjour Audrey.
Bonjour.
Alors l'hébergement le plus populaire chez les étudiants, c'est sans conteste les logements CROUST.
Oui, c'est vrai, car les logements CROUST sont généralement implantés à proximité des transports en commun et des campus. L'autre avantage, c'est que le loyer est inférieur au prix du marché. Il s'agit souvent d'une location d'une chambre meublée, voire d'un studio. Des espaces communs, comme les sanitaires ou la cuisine, peuvent être partagés.
En revanche, les démarches administratives sont assez complexes, longues, et le nombre de logements disponibles, surtout, est limité.
Oui, pour trouver un logement CROUS, il est donc conseillé de commencer ces démarches le plus tôt possible. Pour cela, il faut constituer un dossier social étudiant. Les logements gérés par le CROUS sont prioritairement attribués aux étudiants dont la famille dispose de ressources inférieures à un certain plafond. Les critères sont les mêmes que pour le calcul de la bourse, les revenus de l'étudiant et de ses parents, la composition de la famille et aussi l'éloignement géographique du domicile familial. Les demandes sont satisfaites dans l'ordre de classement lié à l'indice social, en fonction des demandes formulées et surtout des capacités d'accueil des résidences.
Sur le même principe que les résidences étudiantes du CROUS, il existe aussi des résidences universitaires, mais privées.
Oui, tout à fait. Les résidences privées offrent la possibilité de se loger à quelques pas de la faculté ou de l'école. Elles sont ouvertes à l'ensemble des étudiants, qu'ils soient boursiers ou non. Ces résidences étudiantes privées proposent généralement des logements de type studio jusqu'aux 4 pièces. Il est donc possible d'y habiter seul ou en colocation. Elles offrent aussi des services comme un coin repas, une cafétéria, une laverie ou encore une salle de sport. Ici, les revenus ne sont pas pris en compte, mais les loyers y sont quand même plus élevés qu'en résidence CROUS.
Les étudiants peuvent aussi faire le choix d'une location dans le parc privé.
Ils peuvent dans ce cas décider de louer un logement vide ou meublé. Le logement meublé présente l'avantage pour les étudiants d'avoir une durée de location d'un an et qui peut être réduite à 9 mois lorsque l'on est étudiant.
Pour avoir plus de chances de trouver un logement rapidement, il est conseillé de bien préparer son dossier de location.
Oui, tout à fait. Avec l'ensemble des pièces exigibles par les bailleurs, comme la pièce d'identité, un justificatif de domicile ou encore une caution. D'ailleurs, sachez qu'il est aussi possible de créer un dossier de location numérique via la plateforme Dossier Facile proposée par l'État.
Si la location se fait par le biais d'une agence immobilière, outre le versement du dépôt de garantie, des honoraires d'agence seront également demandés.
Oui, il s'agit des honoraires liés à la mise en location, c'est-à-dire les frais de visite du logement, de constitution du dossier de location et de rédaction de bail, mais aussi ceux liés à l'état des lieux. Le montant de ces honoraires dépend de la superficie du logement, mais aussi de sa situation géographique.
Dans certaines villes où le marché est sous tension, Marseille par exemple, la colocation est une solution pour les étudiants, un loyer réduit pour un espace de vie généralement plus grand. À ce sujet, il faut savoir d'ailleurs qu'il existe deux formes différentes de contrats.
Oui, il existe d'abord la colocation avec pluralité de contrats. Dans cette situation, chaque locataire signe un bail avec le propriétaire. Le contrat précise la chambre attribuée à l'étudiant et les parties communes comme la salle de bain, le séjour ou encore la cuisine sont partagées par l'ensemble des colocataires. Il peut aussi s'agir d'une colocation avec un bail unique. Dans ce cas, un seul bail est signé par l'ensemble des colocataires avec le bailleur.
Autre possibilité, sans doute moins connue des étudiants à la recherche d'un logement, ce sont les foyers de jeunes travailleurs.
En fait, les foyers de jeunes travailleurs s'adressent à certaines catégories de personnes, dont les ouvriers, les employés et les jeunes apprentis de moins de 30 ans. Ils peuvent aussi accueillir des étudiants en apprentissage, en stage ou salariés et même à mi-temps.
Ce sont des chambres généralement meublées avec des espaces communs.
C'est ça. Et les frais d'hébergement comprennent une redevance mensuelle et une participation aux prestations annexes. L'autre avantage est qu'ils permettent de bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour aider les jeunes dans leur rentrer dans la vie active. Il faut tout de même se renseigner auprès de ces structures qui peuvent exiger des règles de vie plus strictes via notamment leur règlement intérieur, comme par exemple la possibilité d'héberger des personnes de l'extérieur sur une durée limitée.
Autre solution, les étudiants peuvent louer une chambre chez l'habitant.
Oui, c'est avant tout une solution économique pour se loger. C'est aussi un moyen pour profiter d'une chambre déjà meublée, confortable, avec la mise à disposition d'espaces communs.
Et vivre chez l'habitant peut également prendre la forme d'une cohabitation intergénérationnelle. De quoi s'agit-il exactement ?
La cohabitation intergénérationnelle permet à des personnes de plus de 60 ans de louer ou de sous-louer une partie de leur logement à un jeune qui doit avoir moins de 30 ans dans l'objectif de renforcer le lien social et de faciliter l'accès au logement à un jeune.
Alors elle s'est développée depuis 2004, portée par différentes associations et puis la loi Elan en 2018 lui a donné un cadre juridique.
Oui, concrètement, le contrat suppose une contrepartie financière modeste réglée par le jeune au senior. Pour le parc privé, cette contrepartie financière est librement convenue entre les parties. En complément, le jeune peut réaliser des menus services comme aider le senior à faire les courses, cuisiner ou tout simplement correspondre à des temps de bienveillance et de partage.
Merci beaucoup Audrey pour ces informations. S'il est difficile d'être exhaustif sur ce sujet, sachez que les conseillers juristes et financiers de l'ADIL peuvent vous apporter des informations complémentaires. Vous pouvez d'ailleurs les joindre au 04 96 11 12 00 tous les matins de 9h à 12h30. Et puis vous pouvez également retrouver les informations sur le site internet de l'ADIL des Bouches-du-Rhône. Je vous donne l'adresse www.adil13.org. Rendez-vous mardi prochain pour un autre sujet dans le logement, comment ça marche ?